Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors voilà l'abbé Savin qui arrive. C'est l'un des coupables. À vrai dire, j'avais pas prévu de faire de présentation de la lettre pastorale. Je pensais l'écrire, la diffuser, et puis c'est tout. Et puis en fait, au cours de la session des prêtres, des sessions fraternelles de prêtres de début d'année, nous étions à La Rochelle chez mes parents, tous les prêtres d'ici, donc l'abbé Savin, le père Alfredo, l'abbé Pincé et moi, et je leur présentais la lettre pastorale pour qu'ils aient quand même l'axe que j'allais développer dans la paroisse, et ils m'ont dit qu'il fallait absolument que je fasse une présentation. Donc en fait, c'est à cause de lui que vous êtes là ce soir. Donc le voilà, en tout cas, il est la cause. Donc voilà, c'était... Mais ça m'a obligé à me poser des questions en fait. D'abord, en introduction, pourquoi une lettre pastorale ? Et dans un premier temps, je vous avoue que je ne savais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit cette lettre pastorale. En fait, il y a une intuition. Pendant le pont de l'Ascension, je suis allé chez mes parents, toujours à La Rochelle, même endroit. C'est là que j'ai commencé la lettre, c'est là que je l'ai finie, en fait. Donc, j'avais une intuition qu'il fallait que j'écrive cette lettre pastorale. J'avais en tête tout de suite... Le plan, quasiment, en fait j'avais 11 chapitres dans cet ordre-là, dans le même ordre que la lettre, et le 11 chapitres, je me disais c'est dommage que j'en ai pas 12, parce que symboliquement le chiffre 12 quand même dans la Bible a plus de sens que 11. Bon, voilà, mais bon, en même temps, je ne vais pas me forcer à rajouter un chapitre si ça n'a pas de sens, quoi. C'est pas, il ne s'agit pas de meubler, de combler, voilà. Et puis, en fait, quelques semaines plus tard, le 12e chapitre, qui est en fait le 3e de la lettre, s'est ajouté naturellement, et c'est un chapitre sur la filiation divine qui est tellement évident, et voilà, des enfants de Dieu. Donc, il s'est glissé à sa place. Je ne savais pas non plus quelle serait la taille de la lettre quand j'ai commencé. C'est fait. Je ne savais pas non plus quelle serait la taille de la lettre quand je l'ai commencé. Je pensais que ça serait quelques pages. Et puis, en fait, voilà. Voilà, j'ai fait le choix de me mettre à l'écoute des appels de l'esprit. Et puis, ce n'est qu'après coup que je commence à comprendre sa volonté, même si je dis je commence parce qu'il y a des choses qui me dépassent dans certains retours que j'ai de cette lettre venant de diocèse un peu lointain. Alors, quand je suis revenu après le pont de l'Ascension, en fait, j'ai commencé donc à la rédiger un petit peu là, pendant le pont de l'Ascension, le plan, et puis à voir un peu ce que je voulais dire. Et puis, en fait, revenu dans la paroisse, je n'ai pas pu écrire une phrase. Pris par les activités, n'ayant pas la possibilité de me poser. Donc en fait, j'ai retravaillé cette lettre pendant l'été à partir de mon départ dans les camps scouts et ensuite la Réunion. Et c'est là que j'ai pu commencer vraiment à écrire, en fait. Donc en fait, j'ai emporté ma paroisse avec moi pendant les vacances pour écrire cette lettre. Alors cette lettre, c'est quoi ? D'abord, premièrement, la lettre, il y aura trois parties dans ma présentation ce soir. Premièrement, c'est la lettre d'un pasteur à chacun des membres de sa communauté. Le code de droit canonique, au canon 519, nous dit « Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant sous l'autorité de l'évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ » la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d'accomplir pour cette communauté les fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner, avec la collaboration éventuelle d'autres prêtres ou de diacres, et avec l'aide apportée par des laïcs selon le droit. Donc voilà, donc qui peut écrire une lettre pastorale ? Pastorale, ça vient du mot pasteur. C'est un pasteur, tout simplement. Donc le pape peut écrire une lettre pastorale. Un évêque peut écrire une lettre pastorale. Un curé peut écrire une lettre pastorale. Cette lettre pastorale, en l'occurrence, n'est pas la première que j'allais vous adresser. Pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, j'en avais écrite une petite de 4 pages, simplement 4 pages dans ce format-là, donc c'était un petit peu plus petit, au début de l'année de la foi. Tout début de l'année de la foi, ça doit être septembre 2012 ou octobre 2012, de mémoire, ou 2013 peut-être. Non, 2012. Charge pastorale, donc le pasteur qui s'adresse à sa communauté, et vous avez vu hein, la charge que le pasteur reçoit, les fonctions d'enseigner, de sanctifier, de gouverner. Alors, enseigner, on voit ce dont il s'agit, il y a toute la prédication, la catéchèse. La lettre pastorale peut rentrer aussi en partie dedans, mais pour moi, c'est pas le plus important. Sanctifier, c'est toute la célébration des sacrements, voilà la mission du pasteur aussi. Et puis, gouverner. Alors, gouverner, c'est un mot avec lequel on a du mal. On a peur de la gouvernance, on a peur de l'autorité aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, gouverner ? Alors, très souvent, on traduit gouverner par servir. C'est juste, puisque, effectivement, le Seigneur nous dit, vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison car vraiment je le suis. Si donc moi, le maître et le seigneur, vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. Donc effectivement, c'est juste. C'est juste aussi parce que la charge de gouvernement s'accomplit comme un ministère. Et le mot ministère signifie service. Être ministre, c'est être serviteur. Donc c'est une expression qui est juste, mais qui, à mon avis, est incomplète. Et pour expliquer ce mot de gouverner aujourd'hui, j'aurais tendance à prendre l'expression de conduire. Conduire. Comme le pasteur qui conduit son troupeau, c'est-à-dire qui le mène vers un lieu précis. Il doit savoir où il va, par quel chemin il va y aller, plus ou moins, parce que les circonstances vont faire que parfois on va être obligé de passer par un autre chemin. Mais voilà, gouverner, c'est conduire son peuple vers le Seigneur, conduire chacun. Vous voyez, j'emploie à la fois le mot peuple et chacun. C'est-à-dire qu'à la fois, je m'adresse à la communauté et je m'adresse à chacun de ses membres. Et les conduire, tout simplement, vers le Christ. Donc, voilà, conduire, ça suppose de savoir où l'on va, le savoir soi-même, comme pasteur, savoir où l'on va, et puis savoir le dire, le partager. Et vous voyez que c'est dans cet esprit aussi que j'ai écrit cette lettre. Pour vous aider à comprendre aussi la cohérence de ce que nous vivons. Je suis là depuis 6 ans. J'ai été reconduit, puisque dans le diocèse, on a des nominations sur un temps déterminé. Donc j'ai été reconduit par notre évêque. Il y a 6 ans, quand je suis arrivé, j'ai fait une allocution le jour de mon installation comme curé, où j'avais souligné mon désir, j'avais déjà dit hein, où on allait, mon désir de faire connaître et aimer Jésus-Christ en donnant 5 axes qui correspondent à ce qu'on va retrouver dans la lettre, qui correspondent aux 5 essentiels, qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. C'est les mêmes points essentiels, mais qui n'étaient pas exprimés de la même manière, parce que les urgences n'étaient pas les mêmes. Concrètement, le premier point que j'avais développé, c'était la question de la liturgie. Là, maintenant, je me concentre sur l'adoration, parce que beaucoup de chemin a été fait sur cette question de la liturgie, et on peut aller plus loin. Mais c'est dans le même esprit, et la liturgie, je l'aborde dans la question de l'adoration, mais vous pouvez voir dans la lettre que je l'aborde, on va dire, de manière assez rapide, non pas première. Alors que, évidemment, dans une paroisse, c'est la première chose qu'on voit. Les gens viennent à la messe, ou pour un office. Et du coup, c'est ça qu'ils vont voir en premier de l'esprit que le pasteur veut donner. Donc, comprendre la cohérence de ce que nous vivons, donc c'est tout à fait cohérent avec ce que j'ai mis en place, ce que j'ai développé il y a 6 ans. En sachant que depuis 6 ans, j'ai changé, voilà, sur pas mal de choses, et la communauté a évolué, et donc forcément, ben voilà, je reprends les choses autrement à partir de ce que le Seigneur a fait pour moi pendant ces 6 années, et puis de ce qu'il a fait de la communauté aussi avec, pendant ces 6 années. L'objectif de cette lettre, finalement, tout en comprenant la cohérence de ce que nous sommes en train de vivre, ça permet, vous voyez, de voir que les choses qui sont mises en place dans la paroisse ne sont pas mises en place comme ça en fonction d'une idée folle. Tiens, il y a une nouvelle idée, on va lancer ça. Tiens, il y a une... Oui, il y a parfois des nouvelles idées parce que l'Esprit Saint suscite telle chose, soit dans le cœur d'un fidèle qui vient me proposer quelque chose, soit dans mon cœur directement. Et du coup, ben, si ça s'intègre à ça, je le mets en place. Voilà. C'est pas simplement tout n'est pas tracé. Vous voyez, tout n'était pas tracé quand je suis arrivé. Je savais pas que j'allais mettre en place Visitatio, même si j'avais développé dans mon allocution de démarrage, d'installation, j'avais développé l'attention à la personne jusqu'à sa mort naturelle. J'avais prononcé ça. Je savais pas que je serais amené à mettre en place Visitatio et donc les soins palliatifs à domicile centrés sur la paroisse. Ça, c'est le Seigneur qui fait dire les choses et qui fait les choses. Voilà. Et donc ça permet de le vivre dans l'unité aussi, c'est-à-dire que je ne suis pas le seul à porter ce projet, c'est un projet qui est partagé avec toute la communauté et tous peuvent s'appuyer dessus. S'appuyer dessus d'autant plus qu'il est écrit. Ceux qui me connaissent bien, ma première lectrice qui me connaît très très bien, elle m'a dit, bon ça fait 15 ans qu'elle me connaît au moins, et elle m'a dit... Bon, je vous ai retrouvé en plein là-dedans. J'ai retrouvé mon aumônier parce que c'est une ancienne élève de Sainte-Croix. Je retrouve mon curé. Voilà, elle avait effectivement. On retrouve les traces, les trames importantes. Et malgré tout, un paroissien qui m'a dit avoir lu la lettre 2 fois m'a dit, ah ben tiens, je tombe juste sur cette page. Il m'a dit, ah ben je retrouve plein de choses que vous avez déjà dites. Mais là, dans tel chapitre, vous avez dit telle chose de telle manière, je vous ai jamais entendu le dire comme ça. Il était très attentif, parce qu'en fait, je ne le dis comme ça que depuis le mois de juin, sur ce point-là, précisément, suite à une formation que j'avais reçue et des paroles qui m'avaient éclairé et qui m'ont amené à m'exprimer de cette manière-là sur ce sujet. Donc voilà, vous retrouvez beaucoup de choses, mais ce qui se passe, c'est que les paroles passent. Et puis tout le monde n'est pas là quand on fait une catéchèse, quand on fait une homélie, quand on fait... Donc les paroles passent, elles sont pas forcément installées dans une cohérence d'ensemble, avec un développement homogène. Et les bulletins, les éditos de bulletins, c'est pareil. C'est un petit édito, voilà, mais ils sont pas développés dans un ordre particulier, parce que c'est en fonction des circonstances, en fonction de ce qu'on vit. Et puis ils finissent à la poubelle, tout simplement. Donc, sauf quelques collectionneurs de bulletins paroissiaux. Désolé pour Pierre qui lève la tête, qui dit « Mais tous les bulletins que je plie tous les vendredis matin finissent à la... » Une grande majorité, Pierre, c'est le lot de nos œuvres qui finissent régulièrement à la poubelle. Mais voilà, mais un écrit comme ça, ça reste. Un écrit comme ça, ça reste. Et la lettre pastorale peut donc devenir une référence, un point d'appui pour les paroissiens, pour des nouveaux paroissiens, pour des responsables aussi, donc ils peuvent s'appuyer dessus sans crainte de trahir la pensée. Vous voyez, on entend une homélie, tiens, on a entendu un truc, ça nous a touché plus ou moins, quoi si ça nous a touché, mais on l'a retenu plus ou moins, et puis on ne sait plus comment ça a été dit. J'ai envie de dire, moi, on s'en fiche. Il y a ce que l'Esprit-Saint a fait entendre par rapport à ce qui avait été dit. L'Esprit-Saint n'agit pas que dans le prédicateur, il agit aussi dans le cœur de celui qui écoute. Et c'est pour ça qu'il est bon d'invoquer l'Esprit-Saint, à la fois pour le prédicateur, mais aussi pour soi-même. Parce que parfois, c'est à partir d'une phrase que l'Esprit-Saint suscite dans notre cœur quelque chose qui ne correspond pas vraiment à ce qui a été dit, mais qui correspond à ce que nous devions entendre. Voilà. Et donc, en un sens, si dans un groupe, voilà, je suis responsable du catéchisme, je peux le dire, elle n'est pas là, et puis j'ai retenu telle chose de l'homélie, je veux le partager avec les catéchistes, mais est-ce que je partage en fait ce que j'ai entendu, ou est-ce que ce qui a été dit, ou est-ce que je partage ce que j'ai entendu? Donc, on peut avoir l'impression parfois de trahir la pensée. C'est pas grave, hein, mais ça peut être le cas quand même. Et du coup, ben voilà, l'écrit reste, et donc on peut s'y référer. J'ai pas mis des petits numéros à l'intérieur comme une encyclique pour qu'on puisse citer le numéro 14, le numéro 25, le numéro voilà. Mais bon, le plan est suffisamment détaillé pour qu'on puisse s'y référer. Donc cette lettre, je l'ai écrite voilà comme un pasteur qui s'adresse à sa communauté, à chacun de ses membres, comme un père qui s'adresse à ses enfants. Tout simplement, je connais mes brebis me connaissent, dit Jésus, c'est vrai, évidemment du bon pasteur, et nous sommes appelés, comme prêtres, à être à l'image du bon pasteur. Je connais mes brebis me connaissent, et donc, du coup, ça vous permet aussi de mieux me connaître, même si certains me connaissent déjà très bien. Mieux me connaître, donc vous verrez, entre autres, vous avez pu voir, pour ceux qui l'ont déjà lu, voir deux fois comme ce paroissien, qu'elle est tout imprégnée de l'Écriture sainte et aussi d'un certain nombre de papes qui sont pour moi très importants, commencer par le bienheureux Paul VI, que je cite très souvent, bienheureux Paul VI, Saint Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François. Il manque Jean-Paul Ier dans ceux que j'ai connus, mais en fait je ne l'ai pas connu beaucoup, d'abord j'étais tout petit, et puis il n'est pas resté longtemps. Donc il n'a pas écrit grand chose, un petit truc sur l'humilité je crois, de mémoire, et je dis un petit truc parce que je ne sais plus quelle est la nature du texte, mais juste voilà, c'est pas grand chose. Alors deuxième partie, le sujet central de cette lettre, indiqué par le titre, croissez, c'est pas pour les grenouilles de bénitier, mais c'est la croissance. La croissance. Je crois que c'est un thème fondamental pour l'Église aujourd'hui. Et j'étais heureux d'entendre le pape François l'autre jour s'adresser aux prêtres de Lyon. Je me suis demandé s'il avait lu ma lettre pastorale, parce qu'il soulignait qu'il fallait lire Amoris Laetitia, le document, l'exhortation apostolique sur la famille, sous l'angle de la croissance des personnes. Voilà la clé de lecture pour lui d'Amoris Laetitia. Et je pense que c'est la clé de lecture de beaucoup de choses. La croissance, alors vous voyez la croissance que j'exprime de deux manières, deux axes, mais les deux sont vraiment intimement liés. La croissance des personnes et la croissance en nombre. J'ose pas dire la croissance numérique, parce que quand j'ai employé l'expression « croissance numérique » une fois, quelqu'un a cru que je parlais d'Internet. Mais voilà, maintenant il y a des mots qui deviennent connotés. Donc je vais dire la croissance en nombre, peut-être que de temps en temps le mot numérique m'échappera, mais en tout cas c'est bien dans ce sens-là que je parle de numérique, c'est le nombre de membres de l'Église, de la communauté. Alors la croissance qui est, et je le souligne dès le début dans cette lettre, qui est à la fois une demande de Dieu et un don de Dieu. Une demande, croissez, c'est une expression qui revient souvent dans le livre de la Genèse, par exemple. On va retrouver ça dans les écrits de saint Paul, on va retrouver ça très souvent. Donc une demande de Dieu, une invitation à la croissance, qu'elle soit personnelle ou en nombre, invitation, et en même temps, don de Dieu, je vous ferai croître et multiplier, dit le Lévitique. Et puis saint Paul qui dit, c'est Dieu lui-même qui donne la croissance. Et ça, c'est quelque chose de très important sur beaucoup de domaines. Vous voyez que j'insiste énormément sur la grâce dans cette lettre. La question de la grâce revient très souvent. Je pense que c'est une question cruciale. Je vais revenir sur la grâce. Vous voyez, quand le Seigneur dit aussi au peuple hébreu dans le désert, « Je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort, le bonheur ou le malheur. Choisis donc la vie. » Voilà. Il adresse une demande, « Choisis la vie. » Et il l'adresse, il a une invitation quant à ce qu'il peut accorder, parce que c'est Dieu qui va donner la vie. Je dois la choisir, mais c'est Dieu qui la donne. Je dois choisir la croissance, et c'est Dieu qui la donne. La charité, je dois choisir d'aimer, mais c'est Dieu qui me donne d'aimer. voyez, on pourrait développer beaucoup de choses comme cela pour voir, c'est tout ce qu'on va appeler mérite et grâce. Mérite, c'est ce qui dépend de nous, et grâce, c'est ce qui dépend de Dieu. Et c'est une question qui traverse l'Église depuis des siècles, hein, avec toute la question pélagienne. Donc on est sous saint Augustin, avec l'importance excessive accordée au mérite, comme si des choses dépendaient essentiellement de nous. Or, ce qui est premier, c'est Dieu. Et le pape François s'attaque beaucoup, quand on lit ses écrits, ses interventions. Alors, ce qui est difficile, c'est que parfois il est utilisé, récupéré, on en sort un bout, un autre bout. Mais il s'attaque beaucoup à ce qu'on appelle le néo-pélagianisme dans l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Dans beaucoup de milieux de l'Église, on a l'impression que ce qui serait premier, c'est ce que l'on fait. Et même dans le domaine de l'évangélisation, on a ce risque-là de dire ce qui est premier, c'est ce que l'on fait. On va aller frapper aux portes, on va aller faire ceci, on va aller faire cela. Et c'est parce que l'on fait quelque chose qu'il se passe quelque chose dans le cœur des gens. Bien sûr que nous devons faire quelque chose, mais en sachant que la grâce nous précède et qu'elle nous accompagne. Mais c'est vrai que nous devons faire quelque chose. Saint Augustin, qui a lutté justement contre le pélagianisme, dit lui-même « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. » Parce que la grâce n'agit pas contre nous. Dieu ne nous contraint pas. Donc vous voyez, il y a toujours cet équilibre qui traverse aussi la question de cette lettre, qui traverse cette lettre, cet équilibre entre mérite et grâce. Et en particulier, donc la primauté de la grâce. Vous avez vu, hein, l'introduction, j'ai choisi comme première phrase de cette lettre, cet extrait de la lettre de Saint-Pierre, la deuxième, où Saint-Pierre dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ». Alors j'ai choisi, non pas simplement parce qu'il y avait le mot « croissez » au début et que ça me permettait de le mettre en titre, comme pour toute encyclique où le premier mot sert de titre, alors... C'est vrai que je cherchais un titre qui soit explicite, mais j'ai choisi de le mettre au tout début parce que, pour moi, cette question de la croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ est fondamentale, et c'est vraiment l'objectif de tout cela. Voilà, j'ai confiance dans la grâce. Je croisais tout à l'heure un paroissien qui me parlait de la lettre, qui me disait « Ah, mais quelle confiance vous avez, moi je suis pessimiste, et je pense que dans notre monde, il n'y a plus grand-chose à faire. » Bon, il s'agit d'être réaliste aussi. Ce que je disais dans l'homélie de dimanche soir, en citant la lettre à l'église d'Éphèse, « Si tu ne te convertis pas, je vais prendre ton candélabre pour le changer de son rang. » C'est-à-dire, ben, tiens, tu étais tout prêt, tu avais une lumière qui éclairait bien, écoute, cette lumière, elle éclaire pas bien, on va la mettre plus loin. Et le royaume vous sera enlevé pour être donné à d'autres qui lui feront porter des fruits. C'est exactement, si j'avais cité ça, dans la logique de l'évangile de dimanche. Oui, et ça peut nous guetter aussi, parce que nous pouvons ne pas être de bons vignerons ou nous accaparer la vigne et croire que ça dépend de nous, en fait. Mais personnellement, j'ai confiance dans la grâce. Mais si nous ne faisons rien, si nous n'accueillons pas la grâce de Dieu, nous ne grandirons pas. Nous ne grandirons pas, ni en nombre, ni en sainteté personnelle. Et c'est vraiment dans cet esprit que j'écris cette lettre aussi, c'est pour secouer... Il y a des phrases qui secouent, hein. J'ai mis des citations, j'ai laissé les guillemets pour les phrases les plus violentes, parce que sinon on pourrait croire que c'est moi, alors qu'en fait c'est parfois Vatican II ou quelques auteurs chrétiens comme le cardinal Lavigerie. Mais il y a des phrases qui secouent, mais je crois qu'il faut secouer, il est temps de se réveiller, c'est réjouissant de voir ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église de France. Moi j'étais frappé au congrès mission qui a eu lieu il y a deux semaines. Bon, il y avait 2000 personnes à peu près. Le congrès précédent, il y en avait 1300. Le congrès précédent, il y en avait 700. Et avant, il n'y avait pas de congrès. Donc vous voyez, c'est la troisième édition. Et nous sommes passés de 700, 1300, 2000. Et moi, j'ai été assez impressionné de voir que des intuitions que j'ai pu avoir ici pour la paroisse, D'autres confrères dans d'autres régions de France ont eu exactement les mêmes au même moment. C'est impressionnant de voir ça. Et l'esprit souffle. C'est pas qu'on se refile simplement les idées. Le congrès mission, c'est l'occasion de se refiler des idées. Et puis là, j'ai plusieurs confrères qui m'ont demandé la lettre pastorale. Et tant mieux qu'ils piochent des idées. Voilà, c'est à vous qu'elle est adressée. Mais si ça peut servir pour d'autres dans l'Église, je m'en réjouis. Mais voilà, c'est réjouissant aussi de voir ce qui est en train de se passer. Et surfons sur la vague. Profitons-en. Profitons de ce souffle. Ouvrons la voile. Voilà, l'esprit souffle, ouvrons la voile. Et puis maintenant, allons-y. Et c'est vraiment dans cet esprit que j'écris cette lettre, parce que je crois que, d'abord parce qu'un père veut voir ses enfants grandir, tout simplement, et les voir grandir, donc leur croissance personnelle, et c'est ce qui traverse toute cette lettre jusqu'au chapitre 11, accompagné par la Vierge Marie, chapitre 12, mais la croissance personnelle, c'est la croissance vers la sainteté, qui est un appel de Dieu, on y reviendra. Et donc évidemment, comme curé, comme père, j'ai le désir que chaque paroissien grandisse dans cette dimension, à partir de là où il en est. Voilà, certains sont peut-être très avancés, et très bien, qu'ils continuent de grandir, et puis d'autres sont peut-être encore empêtrés dans certains péchés récurrents qui les envahissent, dont ils n'arrivent pas à se défaire et tout ça. Mais Dieu les appelle à grandir aussi, à partir de là où ils sont. C'est le projet de Dieu. Et c'est ce que nous vivons en acceptant de grandir. Est-ce que je choisis de grandir? Est-ce que je choisis de grandir? Je pense à un enfant, que c'est plus un enfant maintenant, c'est un ado, mais qui, dans sa tête, ne voulait pas grandir. Mais vraiment. Et il ne grandissait pas. Physiquement. Il ne voulait pas grandir. Il n'a pas grandi physiquement. C'est fou, hein, de voir les effets psychosomatiques. C'est des choses qu'on n'a pas fini d'étudier, hein, toute cette dimension-là. Mais c'est aussi vrai pour la dimension spirituelle. Est-ce que je veux grandir? Et en mettant ce titre, hein, croissez, avec cette invitation que Dieu nous adresse, je pose aussi cette question, est-ce que je veux grandir? Grandir, c'est-à-dire, comme le dit le pape François, devenir disciple missionnaire, selon une expression qu'on reprend souvent maintenant, hein, qui vient d'Aparecida, du document d'Aparecida, que j'avais cité ici il y a... c'était avant l'élection du pape François. Quand j'ai fait une assemblée paroissiale des responsables, où j'ai fait une assemblée paroissiale sur le thème de l'évangélisation. C'était en avril 2013, où c'était juste au moment... Non, c'était avant l'élection, il était élu février 2013, donc c'était juste après. Et donc en fait, où c'était février ou mars 2013, c'était en même temps, en fait. Et ce document d'Aparecida est très intéressant parce que l'esprit a bien soufflé là-bas, donc conférence d'évêques d'Amérique latine, et qui sert de support aujourd'hui. L'Église en profite pleinement. Si vous avez l'occasion, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, c'est un document ça vaut le coup de le lire. Et c'est le pape Benoît XVI, d'ailleurs, qui avait employé cette expression de disciple missionnaire dans l'introduction à cette réunion. Il y a une continuité entre les papes, hein, ne l'oublions pas. Avec le charisme de chacun, la diversité de chacun. Devenir disciple missionnaire, ça veut dire d'abord être disciple. Et être disciple, c'est se mettre à l'écoute du Seigneur, c'est croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, si je reprends la phrase de saint Pierre, de la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 18. Et la connaissance, le mot « connaître » dans la Bible, signifie l'intimité. On se souvient dans la Genèse, cette phrase, « Adam connut Ève et elle enfanta Caïn. » Donc vous voyez, ça va jusqu'à cette intimité des époux, ce don total l'un envers l'autre, y compris dans cette dimension sexuelle pour le cadre du mariage. Mais du coup, croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est croître dans son intimité. Ce qui suppose, et là c'est aussi un axe qui traverse la lettre pastorale, ce qui suppose aussi plus d'intériorité. Une relation plus intime avec le Christ, plus d'intériorité. On dit souvent, je ne sais plus qui l'a dit en premier cette phrase-là, que l'apostolat, donc le fait d'être missionnaire, d'être apôtre là où on est, l'apostolat est le débordement de la vie intérieure. L'apostolat est le débordement de la vie intérieure. On va y revenir tout à l'heure dans le développement de la lettre, parce que justement, si j'ai une vie intérieure nourrie, une intimité avec le Christ, ben ça va déborder, et ça va déborder sur les autres. Et c'est ça l'apostolat. Sinon, on tombe dans une forme de pélagianisme, c'est-à-dire c'est mes mérites, ça part de moi, et ça ne part pas du Christ. Donc un père veut voir ses enfants grandir, un père veut voir sa famille grandir. Et donc, là c'est la question de la croissance en nombre. Nous sommes à peu près 1300 pratiquants à la messe le dimanche, sur à peu près 40 000 habitants. Et vous avez vu qu'à plusieurs reprises dans la lettre, je cite un chiffre que j'ai déjà cité, c'est les fameux 97% de personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ au point de venir le rencontrer dans l'Eucharistie. Je pèse les mots, hein, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ au point de le rencontrer dans l'Eucharistie. Parce que certains peut-être le connaissent ou un petit peu, ou voilà. Et d'où cette lettre adressée à chaque fidèle de nos paroisses, chacun, parce que cette croissance numérique dépend tout simplement de chacun d'entre nous, prêtres et laïcs. De l'Esprit-Saint aussi, évidemment, mais aussi de chacun d'entre nous qui avons reçu cette mission. Troisièmement, donc, début, voilà, la lettre d'un pasteur à chacun de ses membres. Deuxième axe que je voulais développer avec vous, c'est ce thème général de la croissance. Et enfin, le contenu de la lettre pastorale. Son contenu, je vous disais, le plan qui s'est un peu imposé à moi très naturellement, qui part de Dieu, qui part du Christ, plus exactement. Vous voyez que les trois premiers chapitres nous placent sous le regard de Dieu tel qu'il nous est donné de le connaître. D'abord, le Christ qui est venu à notre rencontre, qui vient rencontrer chacun d'entre nous, qui est venu nous rencontrer dans notre histoire. Je posais au dîner paroissial dernièrement la question, en invitant les gens à échanger, comment est-ce que j'ai connu Jésus ? Alors cette question, elle est très 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 vaste, parce que et comment est-ce que je l'ai rencontré ? La connaissance qu'on a pu peut-être en recevoir par nos parents, voilà, il y a beaucoup de choses, et c'est intéressant de voir comment nous avons pu rencontrer le Christ. Et puis la deuxième question, c'est aussi comment nous le rencontrons aujourd'hui. Et vous voyez que le pape Benoît XVI et le pape François insistent énormément là-dessus, vraiment sur cette rencontre à l'origine du fait d'être chrétien, dit Benoît XVI, c'est le début de Deus Caritas Est, sa première encyclique. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. C'est vraiment cette rencontre avec le Christ qui fait que nous sommes chrétiens. C'est pas le fait d'avoir une morale, des valeurs et tout ça, on s'en fiche, quoi. On n'en a rien à faire de tout ça. C'est pas ça qui est premier. Ce qui est premier, c'est vraiment Jésus-Christ. Être chrétien, c'est vivre avec Jésus-Christ. C'est choisir de vivre avec lui. Alors, évidemment, si je choisis de vivre avec Jésus-Christ, je vais chercher à vivre conformément à sa parole, avec son aide, avec sa grâce. Et donc, de ma rencontre avec Jésus-Christ va découler ma vie chrétienne. Et avec la dimension morale, qui est peut-être la première que certaines personnes voient. Mais c'est pas ça qui est premier dans ma vie. Ce qui est premier dans ma vie, c'est Jésus-Christ. La morale, c'est une conséquence. Et c'est une conséquence naturelle, au point que, par exemple, quand on a des conversions, quelqu'un qui demande le baptême, et puis qui, dans une situation qui... avec des pratiques contraires à l'Évangile, par exemple. Le fait de vouloir faire coller sa vie à l'Évangile va être un signe d'une réelle conversion. Le fait de vouloir, je n'ai pas dit le fait d'y arriver. Ben oui, il y a toujours plusieurs étapes. D'abord, je veux. Voilà. Je veux pouvoir... je veux te suivre là où tu iras. Ben oui. Et pour cela, il va falloir embrasser la croix. Ouais. Êtes-vous prêt à boire la coupe que je vais boire, hein, à être baptisé dans le baptême dans lequel je vais être baptisé? Nous y sommes prêts. La coupe que je vais boire, vous y boirez. Le baptême dans lequel je vais être plongé, vous y serez plongé, vous aussi. Donc, voilà, cette rencontre avec Jésus-Christ va avoir des conséquences dans notre vie. Et je souligne aussi que l'une des conséquences, ben, ça va être la joie, qui va être le signe aussi de cette rencontre avec le Christ. Donc, premièrement, la première manière que Dieu a de se révéler à nous, de se faire connaître, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas la première dans un ordre historique, parce qu'il s'est d'abord révélé par Abraham, les prophètes et tout ça. Mais pour nous, aujourd'hui, qui sommes nés après Jésus-Christ, c'est la révélation par excellence, et c'est celle que nous recevons par excellence de Dieu qui nous rejoint dans notre humanité, qui nous dit tout son amour, et un amour infini, personnel et concret. Et puis le Christ, Jésus, nous promet l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification, comme on le dit dans une des prières eucharistiques, qui poursuit son œuvre dans le monde et dans nos vies. L'Esprit-Saint est parfois un grand inconnu. En fait, on a parfois un petit peu de mal avec lui. J'ai mis du temps, moi, à m'ouvrir à l'Esprit-Saint, à le laisser vraiment agir dans ma vie. Beaucoup de temps. Trop, mais voilà, c'est comme ça. C'est parfois un grand inconnu parce que, ben voilà, on entend quand on parle de personne, le Père est une personne, le Fils est une personne, l'Esprit-Saint est une personne. Le Père, le Fils. D'accord. On voit une personne paternelle, une personne filiale. Ok. Et une personne esprit. Ben oui. On a un petit peu plus de mal. N'oublions pas que les anges sont des personnes. On ne les voit pas. Des personnes angéliques. Voilà. On n'a pas que la dimension humaine au niveau personnel. Donc une personne spirituelle pour l'ange. Et l'Esprit-Saint est une personne divine. C'est-à-dire qu'il est distinct du Père et du Fils, tout en étant uni au Père et au Fils. Et donc l'Esprit-Saint est ce souffle de vie que nous devons davantage laisser agir. Le pape Saint Jean XXIII, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, ouvrait le concile de Vatican II, qui s'est ouvert il y a 55 ans aujourd'hui, ouvrait le concile Vatican II en désirant une nouvelle Pentecôte pour l'Église. Une nouvelle Pentecôte, c'est-à-dire que le souffle de l'Esprit embrase les cœurs et envoie, qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Les apôtres ont été embrasés par l'Esprit-Saint et à partir de là sont partis aux quatre coins du monde. Ben, c'est le même désir que nous avons aujourd'hui, que nous nous laissions embraser par l'Esprit-Saint pour pouvoir partir aux quatre coins du monde, pour certains peut-être, en tout cas de la Garenne pour la plupart d'entre nous, et de nos lieux de vie plus largement, parce que certains ont aussi des lieux de vie en dehors de la Garenne, que ce soit par exemple le bureau, tout simplement, le lieu de travail, ou d'autres lieux comme ça. Mais c'est aussi là que nous sommes envoyés par l'Esprit-Saint. Nous ouvrir à l'Esprit-Saint, c'est accueillir ses dons, en sachant qu'il travaille pour l'Église tout entière, et que chacun reçoit le don de l'Esprit selon ce que l'Esprit veut, et comme Dieu veut. Ça, c'est un point très important aussi. Parfois, vous voyez, on veut vivre la rencontre avec le Christ ou on a envie que l'Esprit-Saint nous donne tel charisme. Alors, on peut demander. C'est pas interdit. Jésus nous dit « Demandez, vous recevrez ». Donc, bien sûr qu'on peut demander. Mais peut-être que ce charisme que je demande, il va le donner à mon voisin. Ben oui. Ben oui. Et alors ? C'est pour le bien de l'Église tout entière, de toute façon. Et si on s'accapare un charisme, dans ce cas-là, on le perd. C'est un don que Dieu nous octroie pour le bien de l'Église, et il est bon de discerner aussi quels sont les charismes que nous avons pu recevoir. Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné pour pouvoir en faire profiter l'Église tout entière. Et puis le point que je souligne aussi dans ce chapitre, c'est l'importance de vivre de l'Esprit Saint. Laisser l'Esprit Saint vivre en nous. Accepter, je prends une image un petit peu simple, mais accepter de se mettre au siège passager, la place du mort, donner les clés du véhicule, ne pas chercher à reprendre les commandes. À la place du mort, en fait, le mot est peut-être pas très heureux parce que c'est un souffle de vie. Et justement, c'est pour que nous soyons véritablement vivants, que nous nous abandonnons à l'Esprit Saint, que nous laissons prendre les commandes de notre vie. Et l'Esprit Saint nous fait crier vers le Père en l'appelant Abba, Père. Aujourd'hui, nous avions dans l'Évangile la prière du Notre Père. Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Alors ça, c'est un point fondamental, je crois, aujourd'hui, et c'est un chapitre que j'avais oublié, donc qui s'est ajouté dans un deuxième temps. Parce que être chrétien, c'est précisément être fils de Dieu, et c'est vivre en ce monde avec la joie de nous savoir fils de Dieu. Et chaque matin, nous pouvons nous réveiller en sachant que nous sommes enfants de Dieu. C'est notre identité la plus profonde. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis tout mon amour. C'est ce que le Seigneur nous dit chaque matin. Chaque matin. Et voilà, qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous faisons de cela ? Le Père nous est révélé donc par Jésus et l'Esprit Saint, et ils nous font entrer dans cette intimité, parce que le Fils nous fait découvrir ce que signifie être Fils. On voit l'obéissance du Fils, l'obéissance de Jésus, la mission qu'il remplit. Et puis l'Esprit Saint nous fait crier vers le Père en l'appelant Abba, Père. Ces trois premiers chapitres nous situent donc dans ce lien avec Dieu. Et c'est vraiment de là qu'il faut partir, pour ne pas tomber dans ce néo-pélagianisme et parce que c'est Dieu qui est premier. Dieu nous a aimés le premier. Dieu est premier, il est à l'origine de tout, de notre vie, de ma vie. Le chapitre 4 concerne l'Église, notre mère, même si je n'ai pas employé, je crois, cette expression, mais concerne l'Église dont nous faisons partie, et en particulier l'Église en croissance. L'Église en croissance, et quand je dis que ça concerne l'Église, pour moi, ça concerne avant tout notre petite communauté, la micro-portion du peuple de Dieu que sont la Garenne-Colombes et Sainte-Marie-des-Vallées. Voilà, c'est 40 000 habitants, et alors évidemment en lien avec le diocèse, dont nous faisons partie. Je vous disais que le curé et le pasteur propre, sous l'autorité de l'évêque diocésain, dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, je partage le ministère de l'évêque, et je le partage en particulier comme pasteur pour une portion particulière qui est notre paroisse, nos deux paroisses. Et donc, en lien évidemment avec le diocèse, et en lien aussi avec l'Église tout entière. C'est ici que j'évoque la vision pastorale que vous avez peut-être déjà entendue, que je reprendrai, qui est une formulation un petit peu longue, mais parce que c'est pas simplement un slogan qu'on mémorise et qu'on répète, mais malgré tout, il est bon de le mémoriser et peut-être de le répéter. Le meilleur moyen pour mémoriser quelque chose, dans les derniers exemples que j'ai eus de quelqu'un qui devait mémoriser qui voulait mémoriser les mandats missionnaires dans l'Évangile. Les mandats missionnaires, c'est le moment où Jésus envoie en mission. Il y a quatre mandats importants. Et cette personne disait que pour bien les mémoriser, elle les avait écrits et mis dans ses toilettes. On passe pas mal de temps. Finalement, on peut mémoriser des choses et puis autant être édifié dans ces lieux-là. C'est un peu simple de le dire comme ça, mais Dieu est venu nous rejoindre dans notre humanité et c'est parfois par des petits moyens simples que on peut rejoindre Dieu et se laisser rejoindre par lui. Porté par l'Esprit Saint et animé du désir de faire connaître et aimer Jésus-Christ aux habitants de nos quartiers, nous voulons approfondir notre amitié avec Jésus, vivre la charité et susciter l'engagement de chacun dans l'Église et dans le monde. Voilà la vision pastorale, c'est page 23-24. Vous avez ici le condensé, vraiment le condensé qui va être déployé à travers toute la lettre pastorale. Mais vous avez ici le condensé et les cinq essentiels sont présents dans ce condensé. Alors, mais pour ça, nous sommes invités à nous convertir. Le pape François parle beaucoup de conversion pastorale et missionnaire. Et quand il parle de conversion pastorale et missionnaire, il ne parle pas que du prêtre. Il parle des prêtres. Il tape régulièrement sur les prêtres parce qu'ils ont une responsabilité grande, c'est vrai. Mais il s'adresse ici aussi à toute la communauté, c'est dans Evangelii Gaudium. J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Alors je sais que c'est dur, je l'avais dit quand j'avais fait ma formation sur l'évangélisation avant notre assemblée paroissiale sur l'évangélisation en 2013. Je sais que c'est dur d'entendre parler parfois de conversion, en particulier pour les plus anciens. Parce que cela veut dire aussi, lorsque nous parlons de nouvelle évangélisation, je sais que c'est une expression qui a été dure aussi pour certains prêtres, cela veut dire que nous avons échoué. Cela veut dire qu'il faut faire autrement que ce que nous faisons. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Moi-même, j'ai fait des choses que je ferais autrement aujourd'hui. Voilà. Et du coup, il suffit de regarder les fruits. Il suffit de regarder notre Église occidentale. Est-ce que nos séminaires sont pleins ? Alors parfois on dit, oh mais une église pauvre c'est génial, c'est vous savez, mais c'est une église pauvre de gens qui sont extraordinaires. N'importe quoi. Non mais on se console avec des mots comme ça. Si les gens étaient extraordinaires, cette église pauvre rayonnerait immédiatement. Donc non, nous ne sommes pas extraordinaires. Non. Donc on ne peut pas se satisfaire d'une église pauvre en disant « mais c'est peut-être la volonté de Dieu ». Non, il nous dit « croissez, multipliez-vous ». Soyez féconds, multipliez-vous. Et son commandement, « allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés ». Son commandement est toujours valable. Toujours valable. Il n'y a pas... Voilà, alors parfois on réduit. Et en fait, en plus, on croit que l'Église de demain, c'est les jeunes chrétiens d'aujourd'hui. Quel manque de foi! L'Église de demain, c'est aussi tous les adultes qui aujourd'hui ne connaissent pas encore le Christ. Si on raisonne comme ça, l'Église de demain, c'est les jeunes chrétiens d'aujourd'hui, mais elle pourra jamais croître. Imaginez si les premiers apôtres, les apôtres avaient agi de cette manière-là. Mais comment l'Église aurait pu grandir ? C'est pas possible. Moi, j'entends parfois des chrétiens me dire, quand je dis, ah ben tiens, quelqu'un qui, hop, tiens, j'ai, J'ai trois garçons. Et puis, je dis, ah, ben, c'est super, ça pourrait faire trois prêtres. Puis, ah non, mais attendez, il faut aussi que certains se marient pour qu'il y ait des enfants et pour qu'il y ait des chrétiens demain. Ben, et alors? S'il y a trois prêtres et qu'on évangélise, il y aura des chrétiens demain. Chrétiens demain, ce n'est pas simplement les descendants des chrétiens. Et ça, il faut, dans la conversion pastorale et missionnaire, vous voyez, je crois qu'il faut changer cette logique. Et il y a quelque chose qui, pour l'instant, je trouve, en France, n'est pas encore changé sur cette logique-là. Et voilà, donc une conversion pastorale et missionnaire à vivre pour toute la communauté et d'accepter de faire autrement. Oui, nos méthodes ont échoué. Point. Qu'est-ce qu'on fait quand on échoue? On peut nier. Une entreprise qui est en train de se planter, elle peut nier qu'elle est en train de se planter. N'empêche qu'elle se plantera jusqu'au bout, quoi. Et moi, je suis pas là pour accompagner une église qui veut licencier. Et donc, à un moment, il faut réfléchir aussi à une stratégie. C'est le sens de la vision pastorale. C'est le sens de la lettre pastorale. Voilà, comment va-t-on avancer dans la croissance? Et c'est quand même complètement fou, cette histoire des... Ça m'a pas mal frappé, cette histoire des cinq essentiels qui aujourd'hui sont enseignés largement dans l'Église, à travers des formations comme Talentéo, des pasteurs selon mon cœur, Alpha, et tout ça, donc y compris enseignés pour des prêtres, pour... Il commence à y avoir quelques évêques qui se forment aussi, c'est bien. Parce que la conversion arrive par la tête, hein. C'est ce que disait Monseigneur Dufour, là, au congrès Mission. Il parlait de la conversion pastorale d'un diocèse. Il disait la conversion commence par la tête. C'est parce que l'évêque se convertit que la communauté, que son diocèse va se convertir. C'est parce qu'un pasteur se convertit qu'une communauté va se convertir. Voilà. Bien sûr qu'il peut y avoir des soubresauts par ailleurs, mais il y a un moment où il faut que la tête soit touchée. Et donc je suis assez frappé de... Ça m'a pas mal amusé de voir que ce que j'avais développé dans mon allocution d'installation comme curé, qu'on n'appelait pas encore les cinq essentiels, mais j'ai développé en cinq parties qui correspondent exactement à ce qu'on appelle les cinq essentiels. Et c'est assez marrant de voir comment l'Esprit-Saint... Et en fait, si j'ai fait cinq parties, c'est pas parce que je m'étais dit « il en faut cinq ». J'ai commencé « tiens, c'est ça, 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 ça ». Et puis, au final, il y en avait cinq. Point. C'était pas... Et c'est, voilà, c'est intéressant de voir ce que l'Esprit-Saint est en train de susciter des choses un peu partout dans ce même domaine. Donc, comme chemin de croissance, effectivement, revenir à ces cinq essentiels, comme stratégie de croissance. Alors, le chemin de notre croissance, donc ça va être ces cinq essentiels d'une vie chrétienne, que je développe longuement, puisque j'ai fait le choix d'abord de les développer dans leur ensemble, et ensuite de les développer chacun de manière particulière. Dans leur ensemble, parce qu'il s'agit de cinq dynamiques qui fonctionnent ensemble. On va les retrouver dans les Actes des Apôtres, pas formulés comme ça, évidemment, mais en tout cas, on en retrouve une trace dans les Actes des Apôtres. Et j'ai repris dans la lettre pastorale, j'ai remis à la fin la consécration au Sacré-Cœur que j'ai faite pour nos paroisses l'an dernier, le 6 novembre 2016, et dans laquelle tous les paroissiens qui étaient là, toute l'Assemblée, a dit, en signe durable de notre consécration, nous nous engageons à prendre les moyens pour grandir en chrétien. Et donc, c'est quoi un chrétien? En fils de Dieu, appelé à louer et adorer notre Seigneur, donc l'adoration. En frère de Jésus, appelé à développer des relations fraternelles, la fraternité. En disciple de Jésus, le disciple se met à l'écoute, donc appelé à nous former. En serviteur, l'engagement à la suite du Maître. En apôtre, appelé à témoigner de notre foi. On retrouve ces cinq essentiels. Vous voyez, je les mets là dans la lettre, mais je les avais déjà développés l'année dernière dans la consécration. Consécration qui est en partie inspirée, cette partie-là n'est pas du tout inspirée de cette consécration, mais la consécration des paroisses au Sacré-Cœur de Jésus est en partie inspirée de la consécration que Mgr Hayet a faite de son diocèse de Bayonne. Et Mgr Hayet m'a autorisé à reprendre des pans entiers de sa consécration. Donc du coup, j'avais repris des pans entiers. Mais voilà, l'honnêteté m'oblige à dire que je me suis appuyé sur le travail de Mgr Hayé. Donc, dynamique à vivre à tout niveau, c'est-à-dire ces cinq points-là, ces cinq points essentiels, eh bien, nous sommes appelés à les vivre à titre personnel, chacun dans sa vie, la telle que j'ai développée, vous l'entendez, au niveau d'un groupe, parce que je fais partie d'un groupe de secours catholique, par exemple. Eh bien, le secours catholique, je suis dans le service. Je dois vivre les cinq. Mon groupe doit vivre les cinq. Et vous voyez bien que si on ne se forme pas, par exemple, on n'est pas un bon serviteur. Par exemple, si on est dans le secours catholique et qu'on est dans l'accueil des étrangers, ben, si on ne se forme pas sur les procédures juridiques, sur un certain nombre de choses, on ne va pas être un bon serviteur. Et si on ne prie pas, on ne va pas faire ça au nom du Christ. Et si on ne le vit pas dans une dimension fraternelle, eh bien, on ne va pas, à ce moment-là, qu'on va faire son œuvre. On ne sera pas dans une œuvre d'Église. Et puis, si on n'évangélise pas, c'est-à-dire si notre acte, c'est juste un acte sans que ce soit une annonce de Jésus-Christ, il manque quelque chose à l'aboutissement de cet acte. Et vous voyez, vous pouvez prendre n'importe quel service. Alors, évidemment, il y aura des accents plus ou moins importants, évidemment. Mais n'importe quel service, mouvement, groupe de la paroisse, ces cinq dynamiques de croissance, ce qu'on appelle aussi cinq dynamiques de croissance, doivent avoir toute leur place. Et évidemment, dans la communauté tout entière. Évidemment. Alors il y a un lieu, je l'évoque très rapidement dans la lettre pastorale, mais il y a un lieu dont j'ai déjà parlé, qui permet de bien s'ancrer dans ces cinq dynamiques de croissance, dans ces cinq essentiels, ce sont les cellules paroissiales d'évangélisation, parce qu'elles unissent donc ces lieux qui sont des petites fraternités, qui font de la paroisse une communion de communautés. Le pape François parle souvent d'une communion de communautés pour la paroisse, parce que c'est des petits groupes à taille humaine, voilà, où on se retrouve pour vivre cette fraternité, pour vivre tout cela. Elles unissent en elles-mêmes, de façon très naturelle, ces cinq essentiels, et voilà, des chrétiens qui se réunissent là avec une taille raisonnable pour se fortifier dans leur vie chrétienne et donc dans ces cinq essentiels. Cinq essentiels, je développe un tout petit peu du coup chacun des cinq que je développe toujours dans le même ordre. On peut les aborder dans des ordres très différents. Malgré tout, l'ordre dans lequel je l'évoque est le plus logique. Mais quelqu'un peut rentrer par le biais du service et à partir du service découvrir la formation. Donc voilà, donc on peut entrer dans cette hélice en quelque sorte, on peut rentrer par des biais différents. De façon naturelle, pour des paroissiens, c'est plutôt par le prisme de la filiation divine, donc de l'adoration, que l'on va rentrer d'abord dans ce mouvement. L'adoration, c'est notre réponse à Dieu, à son amour. Son amour est premier et en réponse, nous voulons l'aimer. Et donc, c'est une réponse de foi, d'espérance, de charité. On va retrouver les vertus théologales dans l'adoration et qui va nous conduire à cet esprit d'adoration. Cet esprit d'adoration qui est plus large que simplement la question de l'adoration eucharistique. L'adoration eucharistique est un moyen particulier, unique, central pour développer la question de l'adoration, bien sûr, parce que nous sommes face à Dieu. L'hostie, Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, est présent. Il est là, comme le dit le Concile de Trente, dans son corps, dans son sang, dans son âme et sa divinité. Les quatre expressions que reprend le Concile de Trente. Et donc, effectivement, quand le Christ est présent, dans l'hostie, nous sommes pleinement dans ce mouvement de l'adoration. Donc c'est une clé, évidemment. Mais ce n'est pas l'unique lieu, et c'est pour ça que je développe aussi dans ce passage-là tout ce qui va être de l'ordre de la louange, de l'action de grâce, de la vie d'oraison et de la liturgie. Vie d'oraison, L'apostolat est le débordement de la vie intérieure. La vie d'oraison est très importante pour nous. Sainte Thérèse de Calcutta disait « Il est impossible de s'engager dans l'apostolat direct si on n'est pas une âme de prière. » Et Don Chotard, dans l'âme de tout apostolat, disait « Une âme d'apôtre, mais la lumière doit l'inonder et l'amour l'enflammer la première, afin que réfléchissant cette lumière et cette chaleur, elle éclaire et échauffe ensuite les autres âmes. » D'abord, il faut se laisser éclairer, se laisser réchauffer. Et il reprend, en parlant des apôtres, hein, Saint Jean qui écrit « Ce que nous avons vu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons touché, nous vous l'enseignons. » Et il reprend ça en l'appliquant à nous, ou aux apôtres, les apôtres que nous sommes appelés à être, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont considéré de leurs yeux, ce qu'ils ont presque touché de leurs mains, ils l'enseigneront aux hommes. Et la vie d'oraison nous amène justement à voir le Seigneur, à le toucher, à l'accueillir. Et donc à pouvoir ensuite témoigner. Je fais une parenthèse sur Don Chotard. Don Chotard est le père abbé de l'abbaye de Céphons. Et il a écrit au début du XXe siècle, un livre qui fait référence aujourd'hui dans l'Église, qui est traduit dans je ne sais pas combien de langues, qui s'intitule « L'âme de tout apostolat ». C'est un livre qui, pour moi, très important dans ma vie spirituelle depuis très longtemps, que j'ai partagé avec quelques personnes depuis quelque temps. Et en fait, trois paroissiens feront prochainement une présentation de ce livre, L'âme de tout apostolat. C'est pas moi qui le ferai, parce que moi je suis pasteur, je suis prêtre, et je trouve que c'est... Bon, je serai là, j'introduirai, je pourrai parler s'il faut, mais je trouve que c'est très intéressant pour vous d'entendre comment des laïcs ont reçu ce livre et ce que ça a changé dans leur vie. Et donc il y aura trois laïcs de la paroisse, rassurez-vous, ils sont déjà choisis. Donc si je vous ai pas contacté, c'est que vous n'allez pas être sur la liste. Je ne vais pas vous faire appel à vous subitement à la dernière minute. Il y aura trois laïcs de la paroisse qui présenteront, de trois générations différentes, hommes, femmes, et qui présenteront ce livre-là. Ce sera peut-être au cours de la neuvaine avec les reliques du curé d'Ars, ça sera peut-être à un autre moment. On cherche le meilleur moment. Vous en entendrez parler, mais je vous le signale dès à présent. Esprit d'adoration. Fraternité. Fraternité, voilà, c'est un chantier sans cesse à reprendre. Hein. On le voit dans une famille d'ailleurs. Les relations fraternelles parfois peuvent être tendues. Il faut reprendre des choses et tout ça, mais c'est pareil dans notre communauté. Il faut sans cesse reprendre cela, développer un esprit de fraternité, c'est-à-dire aussi, j'évoque dans la lettre, lutter contre l'indifférence. On peut être dans l'Église juxtaposé. Je suis à côté de quelqu'un, mais est-ce que c'est mon frère ? Je disais tout à l'heure, nous sommes enfants de Dieu, mais est-ce que j'ai vraiment conscience que Dieu est mon père ? Est-ce que j'ai vraiment conscience que mon voisin, il est aussi enfant de Dieu ? Et donc, à partir de là, est-ce que j'ai conscience que c'est mon frère ? On est parfois un peu comme le fils de la parabole du fils prodigue qui dit « Ton fils que voilà ». Et le père lui répond, ton frère. Ton fils que voilà, ton frère. Ben voilà, c'est ce qu'il peut dire pour chaque personne dans notre communauté, à chaque fois qu'on voit quelqu'un, ouais Seigneur, et ton fils que voilà, ton frère, ta sœur. Donc lutter contre l'indifférence, j'évoque quelques moyens. Et puis je reprends largement les dangers que le pape François souligne beaucoup. Que sont les dangers de la langue ? Les commérages, les rumeurs, les bavardages, les calomnies, les médisances, tout ce qui tue. Et l'emploi des mots forts, hein ? Le pape François, bon, en général, il emploie des mots assez directs. Hein ? Les commérages sont destructeurs dans l'Église, c'est un peu l'esprit de Caïn, tuer son frère avec la langue. C'est direct, hein ? C'est une maladie grave qui commence simplement... peut-être seulement par un peu de bavardage, et s'empare de la personne en la transformant en semeur de zizanie, comme Satan, et dans beaucoup de cas, en homicide de sang-froid de la réputation des collègues et des confrères. C'est la maladie des personnes lâches qui n'ont pas le courage de parler directement. Et voilà, je vous disais les mots les plus violents. Moi, je les laisse entre guillemets. Comme ça, on n'ira pas dire que je suis trop violent. Mais c'est vrai que les mots sont forts. Mais il faut l'entendre. Il nous faut l'entendre pour justement développer la fraternité. La formation, indispensable, ô combien indispensable. Nous ne pouvons pas faire de notre foi le parent pauvre de notre développement personnel. Et donc, il est nécessaire de nous former. J'évoque beaucoup de moyens dans cette lettre, mais voilà, des moyens qui ont lieu sur la paroisse, des moyens qui sont ailleurs, des catéchèses, des lectures de revues, des gens qui sont, par exemple, chez les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens, il y a une revue qui donne de bonnes formations, des gens qui sont scouts, les revues. Mais parfois, les revues qu'on reçoit, vous savez, quand on fait partie d'un groupe, on les pose, on reçoit tellement de choses, c'est vrai. En même temps, on perd tellement de temps ailleurs qu'on aurait peut-être le temps de la lire, hein. Faisons parfois le tri dans notre journée avant de dire qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas le temps. Faisons le tri. Mais je suis membre du MCR, Mouvement Chrétien des Retraités. J'ai une revue qui va pouvoir m'aider et qui va m'apporter la formation adaptée à ma situation, parce que ma situation de retraité, c'est pas la même que la situation d'un enfant au catéchisme. Et donc, on a des outils comme ça. Alors, pour information, l'EAP va travailler des choses sur ce domaine pour pouvoir diffuser des outils de formation, renvoyer à différents outils de formation. Ce qui suppose quand même que chacun fasse le chemin de dire « Tiens, celui-là, ça me correspond, celui-là, j'en ai besoin. » Mais en tout cas, de mieux faire connaître certains outils existants, comme les MOOC des Bernardins, par exemple, les formations à distance, c'est super, on reste chez soi devant son ordinateur, on a les vidéos, on a des petits travaux à faire, on peut même s'organiser à 3-4 à dire « Tiens, tu le fais aussi, toi tu le fais aussi, on se retrouve tous les 15 jours, on prend un café ensemble pour échanger sur ce qu'on a reçu de cette formation, pourquoi pas ?» On sait qu'on est fragile et que si on n'a pas un petit point d'appui pour avancer dans la formation, on finit par lâcher. Voilà, faut se connaître, hein. Et donc du coup, on peut être inventif comme ça. Mais l'EAP va travailler ça. En fait, l'EAP a travaillé à la session de rentrée sur les 5 essentiels et sur une perspective à 4 ans de la paroisse. Je vous parlais de stratégie. Oui, comme dans une entreprise, on va faire une perspective 3 ans à 4 ans pour justement avoir une perspective de croissance. Et voilà, cette question de formation est revenue. Et on est en train de... Ça fait partie des priorités. Parce que plan à 4 ans, vous imaginez bien qu'on ne va pas tout lancer tout de suite. Mais ça veut dire qu'on a des choses en réserve. On va avancer. Le service. C'est important, le service. Mais vous savez, là où on a du mal dans le service, c'est qu'on a du mal à identifier les besoins et les qualités des gens. Et à faire coller les qualités des uns, les compétences des uns, avec les besoins des autres. On a beaucoup de mal. Alors on cherche les solutions, on cherche évidemment. Mais ça me faisait penser au fait que beaucoup de personnes ne se sentent pas concernées quand on lance un appel général. On cherche des catéchistes. La paroisse cherche des catéchistes. Mais je ne me pose pas la question, au fait, et moi ? Je retrouve cette même logique, je pense, pour le pèlerinage en Terre Sainte. C'est marrant parce que là, j'en parlais avec quelques personnes directement. Le pèlerinage paroissial qui a lieu du 21 avril au 1er mai, où il y aura les 3 prêtres présents de la paroisse. Et je me disais, voilà, on lance une annonce à la messe. Les gens... c'est bien, la paroisse part en pèlerinage. Puis après, quand je vais voir quelqu'un... Ah ouais, tiens, je pourrais peut-être y aller. Mais c'était la paroisse. Et on retrouve la même logique dans le service. Vous voyez, il y a beaucoup de choses où on ne se sent pas concerné. Et je me dis, mais il faudrait qu'on arrive dans notre paroisse à développer une culture de l'appel. Mais une culture de l'appel qui ne vienne pas simplement d'en haut. Le curé, Vous vous rendez compte qu'il faut que je remplisse. Moi, j'ai parfois des groupes qui me disent « On a besoin de gens pour la préparation baptême. On a besoin de gens pour l'éveil à la foi. On a besoin de gens. » Mais ils croient que j'ai des réservoirs de gens. Que j'ai une liste. J'ai pas de liste, moi. Alors, après, je vois des personnes, mais de toute façon, moi, je connais déjà les besoins de la paroisse. Et donc, je pars pas du « On a besoin d'eux ». Moi, j'essaye de partir du charisme de la personne. Et quand j'appelle quelqu'un pour une mission, c'est pas simplement parce que j'ai un besoin. Alors peut-être aussi parfois, mais c'est d'abord parce que je pense que cette personne a les qualités nécessaires pour cette mission-là. Et je pense que dans la paroisse, on pourrait davantage, en entendant des besoins, en entendant des appels, tiens, ben, au Secours catholique, Christian Delattre cherche des gens pour l'entourer. Ah, d'accord, on entend ça. Bon. Et puis on croise quelqu'un. Tiens, j'ai entendu une annonce, mais toi, ça t'irait super bien. N'attendons pas que ce soit le curé ou l'intéressé, le Christian Delattre, en l'occurrence, qui appelle la personne. Vous pouvez tous appeler quelqu'un. Et puis après, ben, la personne rencontrera Christian Delattre, le discernement se fera. C'est pas grave. Si, peut-être que ça n'aboutira pas parce que ça correspond pas. C'est pas grave. Mais voilà, une culture de l'appel aussi pour répondre aux besoins dans la dimension du service. J'évoque deux dangers dans le service. Deux dangers qui sont toujours présents. C'est se croire inutile et donc ne rien faire, se croire indispensable et donc tout faire. Et vous voyez, pour moi, il y a un bon exemple, je ne l'ai pas cité dans la lettre, mais un très bon exemple pour lutter contre ces dangers, c'est le pape Benoît XVI. C'est le pape Benoît XVI qui, lorsque Saint Jean-Paul II, il a demandé plusieurs fois à Saint Jean-Paul II, alors qu'il était cardinal préfet pour la congrégation pour la doctrine de la foi, il a demandé plusieurs fois à se retirer. Il voulait se retirer dans un monastère, en fait. Il voulait se retirer, terminer sa vie en écrivant, en faisant... Voilà. Il voulait se retirer. Et puis il est élu. Ben, il dit oui. Puis à un moment, il voit qu'il ne peut pas le faire, qu'il ne peut plus le faire, que... Voilà, il n'a pas envie de vivre la fin de sa vie à la même manière que Saint Jean-Paul II, sans critiquer la façon de vivre de Saint Jean-Paul II. On retrouve deux choses, à la fois la souffrance, aller jusqu'au bout dans la souffrance, et en même temps la pudeur et la discrétion par rapport à l'affaiblissement de la personne. Vous voyez, on retrouve ces deux dimensions chez Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Eh bien, il se retire. Voilà. En laissant la place à quelqu'un qui fera peut-être les choses, comme je le dis là, autrement que ce qu'il avait fait. Et alors, l'Église ne nous appartient pas. Nos services ne nous appartiennent pas. Et puis, cinquième essentiel, l'évangélisation, dont vous m'avez entendu souvent parler, mais c'est vraiment un point important. Hein. Aucune communauté chrétienne n'est fidèle à sa propre mission si elle n'est pas missionnaire, dit Saint Jean-Paul II. Ou bien, elle est une communauté missionnaire, ou bien... Elle n'est pas une communauté chrétienne. Là encore, des termes forts. Hein. Elle n'est pas une communauté chrétienne si elle n'est pas missionnaire. Point. Et donc, il y a vraiment l'urgence d'une annonce explicite de l'Évangile. Et derrière ça, il y a une question de foi qui renvoie aux trois premiers chapitres de la lettre pastorale. Est-ce que nous croyons en Dieu ? Est-ce que nous avons confiance en lui ? Est-ce que nous croyons en Dieu ? Nous ne pouvons pas, par notre silence, priver les hommes de la bonne nouvelle et du salut que Dieu veut leur accorder. Est-ce que je crois que Dieu veut sauver mon voisin ? Est-ce que je crois que Dieu l'aime ? Est-ce que je crois qu'il l'aime autant que moi ? Même s'il ne le connaît peut-être pas. Et vous voyez, d'abord une question de foi dans cette question d'évangélisation. Chacun est concerné, chacun. Je ne sais plus si c'est là que je cite le Concile de Vatican II ou si c'était avant, mais Vatican II qui dit qu'un membre... Ah non, c'est quand je parle de l'Église en croissance. Un membre qui ne travaille pas à la croissance du corps qu'est l'Église, un membre de l'Église, donc un chrétien, qui ne travaille pas à la croissance du corps, selon ses possibilités, à la croissance du corps qu'est l'Église, doit être réputé inutile à l'Église et à lui-même. Là encore, quand je vous disais qu'il y a des termes forts dans Vatican II, vous voyez, Vatican II, on lui a fait dire parfois un peu n'importe quoi. Hein. C'est « Ah non, mais maintenant, c'est la question de l'ouverture, et puis tout se vaut, et tout ça. » Tu parles. Ouvrons Vatican II. Ouvrons-le. Et donc, chacun d'entre nous a reçu cette mission. Chacun. Les deux accents essentiels du Concile de Vatican II, les deux réformes très importantes, c'est la question de la mission et la question de la sainteté. Chapitre suivant. La question de la mission était dans l'esprit de beaucoup réservée pour les missionnaires au sens ceux qui partent en mission, donc les prêtres, les religieux, les religieuses, c'est eux qui partent en mission. Non, dit Vatican II. C'est toute l'Église qui est concernée par la mission. Elle n'est pas réservée à quelques-uns. La sainteté, c'est bon pour les prêtres, les religieux, les religieuses, les consacrés, tout ça, quoi. Non, dit Vatican II. Tout homme est appelé à être saint. Et donc tous, nous sommes appelés à être missionnaires, là où nous sommes, en allant vers les gens connus et vers les inconnus, en profitant des occasions qui nous sont présentées, ou en les suscitant. C'est parfois pas difficile de susciter. Je retourne dans mon bureau le mercredi des cendres, je suis allé à la messe des cendres à l'heure du déjeuner, j'ai pas effacé la marque sur mon front. Ça vaut des questions. C'est l'occasion d'un témoignage. Avec douceur. Il ne s'agit pas d'écraser les personnes. Je disais, il ne s'agit pas d'écraser ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ, mais avec délicatesse, en saisissant ou en suscitant les opportunités de partager avec eux ce qui nous fait vivre en témoignant de ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous sommes tenus d'annoncer les merveilles de Dieu. Nous sommes tenus de témoigner. La conversion, en revanche, ce n'est pas notre ressort. Ça, c'est le ressort de Dieu. C'est le ressort de l'œuvre de la grâce dans le cœur de la personne et de son accueil de la grâce. Mais le témoignage est de notre ressort. Et personne ne peut le faire à notre place. Et si Dieu nous a mis là, à tel endroit, c'est pour que nous fassions grandir l'Église à tel endroit. Chacun selon ses possibilités. C'est déjà un parent vis-à-vis de ses enfants. Un grand-parent vis-à-vis de ses petits-enfants. Est-ce que je travaille à la croissance de l'Église avec mes enfants, avec mes petits-enfants ? Vous voyez, c'est là déjà, sans aller simplement vers les inconnus. Il y a aussi les gens connus. Et au fait, parfois les très proches. Le prochain, il est proche, par définition. Et sans oublier, encore et toujours, que l'apostolat est le débordement de la vie intérieure. Nous voulons agir non pas pour Dieu, non pas faire des choses pour Dieu, ça je l'évoque dans les premiers chapitres, mais faire des choses par Dieu. Que les missionnaires, dit Saint Jean-Paul II dans Redemptoris Missio, donc les missionnaires, vous voyez, ça s'applique à nous tous aujourd'hui, réfléchissent sur le devoir de la sainteté que le don de la vocation leur demande, en se renouvelant de jour en jour par une transformation spirituelle et en mettant à jour continuellement leur formation doctrinale et pastorale. Un missionnaire doit être un contemplatif en action. En effet, alors la phrase que je mets là est n'est plus de Jean-Paul II, mais je l'ai prise chez Don Chotard. Je n'ai pas cité Don Chotard parce que ça aurait fait trop lourd de faire une citation de citation, mais c'est Don Chotard qui le dit de cette manière-là. « Le malheur à moi si je n'évangélise pas ne doit pas nous faire oublier le que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme. » Malheur à moi si je n'évangélise pas. Ok, donc je me lance dans les travaux d'évangélisation. Oups, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme, demande Jésus. Donc je dois prendre soin aussi et avant tout de mon âme. D'où la question de la vocation à la sainteté. Les chapitres s'enchaînent les uns aux autres très naturellement. D'où la question de la vocation à la sainteté. C'est le but de notre croissance, être saint. Ne croyons pas que la sainteté n'est pas pour nous. Ne croyons pas ça. Paul VI, je suis tombé sur ce texte-là au mois d'août. Je ne le connaissais pas. Sanctitatis Clarior. C'est un motu proprio de Paul VI qui réforme les questions des canonisations et des béatifications. et qui n'est pas traduit en français, en fait. On l'a en latin, on l'a en italien, et sur le site du Vatican, il n'est pas encore traduit en français. Et il écrit, l'élément le plus caractéristique, il parle de la sainteté, c'est là l'élément le plus caractéristique et, pour ainsi dire, la fin ultime de tout le magistère conciliaire. Lui qui a clos le concile de Vatican II, qui avait promulgué toutes les déclarations de Vatican II, dit que cette question de la vocation à la sainteté est l'élément le plus caractéristique et la fin ultime de tout l'enseignement du concile. Nous sommes appelés à être saints. Et c'est-à-dire que la sainteté n'est pas un idéal. Un idéal, vous savez, c'est inaccessible. C'est pas pour moi, quoi. C'est un idéal. C'est une vocation. Une vocation, c'est-à-dire un appel. Dieu m'appelle. Et c'est comme pour la croissance. Dieu qui me dit « croissez » me donne aussi les moyens de la croissance. Dieu qui m'appelle à être saint me donne les moyens de la sainteté. Tous les appels de Dieu sont accompagnés de la grâce qui correspond. Quand Dieu appelle quelqu'un à être prêtre dans le célibat, par exemple, il lui donne la grâce pour vivre ce célibat. Après, on peut ne pas en profiter, hein. C'est comme la grâce de l'unité dans les époux, certains n'en profitent pas et vont voir ailleurs. Bon, mais Dieu donne la grâce correspondant à la vocation à laquelle il appelle quelqu'un. Et comme il nous appelle tous à être saints, eh bien, il nous donne cette grâce. Je pense à un prêtre que je voyais lundi, un ami prêtre. Son père est mort mardi dernier, il y a une semaine. Et il me disait que les derniers mots de son père, qu'il murmurait à voix basse et qu'il répétait, c'était « Je veux être saint. Je veux être saint. Je veux être saint. » Et puis il est mort. Bien. Eh bien, question pour chacun d'entre nous, est-ce qu'on murmure ces mots aussi ?« Je veux être saint. » Être saint, ben, là où nous sommes. Être saint, c'est vivre en présence de Dieu, évidemment, pour l'éternité. Être saint, c'est vivre en présence de Dieu dans notre temps. C'est mettre l'extraordinaire de la présence de Dieu dans l'ordinaire de notre vie. Et les saints qui nous entourent nous montrent que c'est possible. Le mettre au cœur de notre vie, donc au cœur de notre monde, quelle que soit notre vocation, au cœur de notre vie, c'est-à-dire même au cœur de nos tentations, ce qu'écrit André Louf, la sainteté ne se trouve pas à l'opposé de la tentation, mais au cœur même de la tentation. C'est-à-dire que je dois chercher Dieu là où je suis. Je suis dans une période de tentation, je ne sais pas de quel domaine, bon voilà, et c'est là que je dois chercher Dieu et que je dois l'invoquer. Nous sommes petits, nous sommes des enfants sur ce chemin de croissance. Et même si l'objectif paraît haut, il nous faut le désirer, clairement. Je veux être saint. Je pensais au cardinal Lavigerie. Le cardinal Lavigerie, c'est le fondateur des Spiritains, qui était archevêque d'Alger, et qui disait, pour un apôtre, il n'y a pas de milieu entre la sainteté complète, au moins désirée et poursuivie avec fidélité et courage, ou la perversion absolue. C'est encore une citation, c'est pas de moi. Les phrases violentes. Est-ce que je désire cette sainteté? Au moins désirée et poursuivie avec fidélité. C'est pas dire que je l'ai atteint. Attention au pélagianisme, c'est pas mes mérites, c'est pas par mes efforts. Mais est-ce que déjà je le désire? Vraiment? Et puisque nous sommes des petits-enfants, sous le regard de Dieu, le Seigneur nous a donné une mère. Voici ta mère. Et elle nous accompagne sur ce chemin. Elle nous assiste sur ce chemin. J'évoque dans ce chapitre quelques pistes sur la manière de nous laisser accompagner par la Vierge Marie. Notre relation à notre mère est unique. Voilà, chacun a une relation unique avec sa mère. C'est pareil pour la Vierge Marie. Je n'entre pas dans beaucoup de détails, il y a une certaine pudeur aussi. Et simplement pour terminer, avant de répondre à d'éventuelles questions, je vous lis la prière que j'ai composée pour la fin de cette lettre pastorale. Sainte Marie, Mère du Christ, Mère de son corps qui est l'Église et notre Mère, vous qui avez veillé sur la croissance de votre divin Fils Jésus, veillez encore sur la croissance de l'Église et de chacun de ses membres. Montrez-nous Jésus et conduisez-nous à lui. Apprenez-nous à nous laisser aimer. Apprenez-nous à le connaître et à l'aimer, ainsi qu'à le faire connaître et à le faire aimer. Vous qui vous êtes rendu disponible à la puissance de l'Esprit-Saint, accorde-nous par votre prière la grâce de ne pas mettre d'obstacle à son action en nous et dans nos paroisses. Écrasez de votre talon le diviseur qui rôde. Assistez-nous sur notre chemin pour que nous sachions prendre résolument les moyens concrets pour progresser dans l'adoration, la fraternité, la formation, le service et l'évangélisation. Vous que le Père a choisi de toute éternité pour être la mère de son Fils, aidez-nous à comprendre et à croire qu'il a fait de nous ses fils et ses filles, et qu'il nous a choisis pour que nous soyons saints.